Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique édition du jeudi 1er septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sédoulia. Tout d'abord les titres. Au Mali, 50 civils ont été tués en avril dans une opération de l'armée et de militaires étrangers selon l'ONU. Éthiopie, rebelles et gouvernement annoncent une extension des zones de combat. Le rapport de l'ONU sur la région chinoise de Xinjiang évoque des crimes contre l'humanité. L'Ukraine accuse la Russie de bombarder l'itinéraire de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Entretien téléphonique entre le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Yair Lapid sur le nucléaire iranien. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. L'ONU renouvelle ses accusations contre l'armée malienne et des soldats étrangers qui ont fait au moins 50 morts civiles en avril dernier. Les précisions de Mohamed Oumfa.
La MINUSMA a publié mercredi sa note trimestrielle sur les violations des droits humains entre avril et juin. Elle revient sur les événements du 19 avril à Omori, dans le centre du Mali. D'après la MINUSMA, ce jour-là, les soldats maliens accompagnés de militaires étrangers ont conduit une opération au cours de laquelle au moins 50 civils, dont une femme et un enfant, ont été tués et plus de 500 personnes arrêtées. La MINUSMA ne fournit aucune précision sur ces combattants étrangers. L'armée malienne avait le 22 avril indiqué avoir mené un ratissage dans la zone de Omori après avoir été attaquée 3 jours auparavant. Elle avait indiqué avoir tué 18 assaillants et interpellé 611 personnes. La grande majorité a été libérée, mais parmi les quelques dizaines d'hommes retenus, 2 sont morts sous la torture, selon la MINUSMA. Le 24 avril, un militaire aurait tué sommairement 20 autres prisonniers au camp de l'armée à Omori, ajoute la MINUSMA. Ces accusations interviennent au milieu de relations tendues avec les autorités maliennes qui ont déjà expulsé Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, peu après l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako.
Au Soudan, un manifestant a été tué mercredi à Khartoum dans la répression des manifestations 10 mois après le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan qui a plongé le pays dans la violence et une grave crise économique. Ce décès porte à 117 le bilan de la répression de ces manifestations. Le protestataire a succombé à ses blessures après avoir été touché à la tête par une cartouche de gaz lacrymogène et renversé par un véhicule des forces de sécurité, selon le syndicat de médecins pro-démocratie. Le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré s'accusent mutuellement d'ouvrir de nouveaux fronts dans le nord de l'Éthiopie une semaine après la reprise des combats. Le point avec Abdulrahman Dia.
Cette extension possible du conflit intervient au lendemain d'un nouveau raid aérien contre Mekele, la capitale du Tigré, le deuxième depuis la reprise des hostilités le 24 août, dans des zones de l'Amara et de l'Afar, entourant la pointe sud-est du Tigré. Dans un communiqué, le gouvernement éthiopien a accusé les rebelles d'avoir étendu leur offensive à d'autres zones du nord de l'Éthiopie, dans la zone administrative de Wag, dans le nord-est et l'ouest de l'Amara, frontalière du Soudan, et dans un district de l'ouest du Tigré. Pour sa part, Getachew Reda, porte-parole des autorités rebelles du Tigré, a accusé le régime d'Abiy Ahmed d'avoir lancé une offensive dans ces zones. Des accusations mutuelles, mais sans aucune confirmation de sources indépendantes. Les journalistes n'ont pas accès au nord de l'Éthiopie. La région du Tigré est presque coupée de l'Éthiopie et du reste du monde depuis plus d'un an. Revendiquée par les Tigréens et les Amaras, la zone ouest du Tigré est occupée depuis fin 2020 par les forces régionales d'Amara qui prêtent main forte à l'armée fédérale.
Le pétrolier géant Affinity s'est échoué dans le canal de Suez, le bloquant pendant une durée non précisée tard mercredi soir. Cet incident a fait craindre une interruption du trafic maritime similaire à celle causée par l'Ever Given dont la proue s'était encastrée dans la rive est du canal pendant une tempête de sable en mars 2021. Le canal représente l'une des routes maritimes les plus fréquentées du commerce mondial. Le pétrolier de 64 000 tonnes a été remis à flot avec succès, selon l'autorité du canal de Suez.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU évoque de possibles crimes contre l'humanité, fait état de preuves crédibles de torture et de violences sexuelles à l'égard de la minorité ouïghour et appelle la communauté internationale à agir. Dans son rapport très attendu sur la région chinoise du Xinjiang, publié mercredi, l'ONU écrit l'ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire de membres des Ouïghours et d'autres groupes à prédominance musulmane peut constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. Pékin considère ce rapport comme une farce orchestrée par les Occidentaux, Washington en tête. Michelle Bachelet, dont c'était le dernier jour à la tête du Haut Commissariat, après un mandat de 4 ans, tient ainsi in extremis sa promesse en publiant le document peu avant minuit à Genève. Elle était soumise à de fortes pressions. Mikhail Gorbatchev, l'ex-dirigeant soviétique décédé mardi, aurait pu être célébré pour avoir involontairement ouvert une voie vers l'indépendance de l'Ukraine, mais son soutien à l'annexion de la Crimée et son silence face à l'invasion russe ont entaché sa réputation en Ukraine. Le point avec Timothée Donangmaï.
Mikhail Gorbatchev, de son vivant, parlait souvent de ses racines ukrainiennes. Sa mère était ukrainienne, tout comme sa femme Raïssa. Si le gouvernement ukrainien est resté muet à l'annonce de sa mort, dans les rues de Kiev, les habitants n'ont pas mâché leurs mots. Katerina Boyuk, une étudiante de 17 ans, est convaincu que Gorbatchev ne se souciait pas de l'Ukraine et que l'indépendance de ce pays n'a rien à voir avec lui, car il était juste un dirigeant soviétique qui n'a pas réussi à conserver son trône. Il est autant agresseur que les dirigeants actuels du Kremlin, déclare pour sa part Vitalia Formanchuk, 43 ans. Cette hostilité visible découle aussi du silence de Gorbatchev sur l'invasion de l'Ukraine. Le même Gorbatchev avait déclaré avoir approuvé l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Il dirigeait l'Union soviétique en 1986 lorsqu'un réacteur de Tchernobyl a explosé dans le pire accident nucléaire du monde. Moscou avait d'abord tenté d'en minimiser l'ampleur, ce qui a retardé l'évacuation des habitants. Gorbatchev est aussi blâmé pour sa décision de maintenir le défilé du 1er mai à Kiev 5 jours après cette catastrophe. Des milliers de personnes, dont de nombreux enfants, avaient défilé en tenant des fleurs, ignorant le nuage radioactif qui les entourait.
Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie aujourd'hui d'effectuer des frappes d'artillerie sur Energodar, ville où se trouve la centrale de Zaporizhzhia, tandis que Moscou a assuré que des saboteurs envoyés par Kiev avaient tenté de prendre cette centrale nucléaire. Ces accusations mutuelles interviennent alors qu'une mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique doit se rendre dans la journée à la centrale de Zaporizhzhia, occupée par les Russes et bombardé à plusieurs reprises. Le premier ministre israélien Yair Lapid a discuté hier de l'accord sur le nucléaire iranien avec le président américain Joe Biden. L'État hébreu mène une offensive de dernière minute pour bloquer un retour à l'accord de 2015. Le point Michel Joseph.
Yair Lapid et Joe Biden ont longuement parlé des négociations avec Téhéran et des efforts pour stopper la progression de l'Iran vers une arme nucléaire, selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien. Au cours de l'appel téléphonique, M. Biden a souligné son profond engagement pour la sécurité de l'État d'Israël et la préservation de sa capacité à faire face à tout ennemi ou menace, selon le communiqué. Le ministre israélien de la Défense, son conseiller en matière de sécurité, sont déjà venus à Washington et le chef des services israéliens d'espionnage doit faire de même la semaine prochaine. Israël s'oppose à une relance de l'accord de 2015 qui accorderait à l'Iran un allègement des sanctions en échange de la limitation de son programme nucléaire. M. Lapid a déclaré la semaine dernière que c'est un mauvais accord qui donnerait à l'Iran 100 milliards de dollars par an qui seraient utilisés par le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique des groupes extrémistes soutenus par l'Iran.
Les concentrations dans l'atmosphère des gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète ont atteint des niveaux records en 2021, tout comme le niveau des océans a indiqué hier l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Togo, selon l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la qualité des services fournis par les opérateurs de téléphonie mobile Move Africa Togo et Togocel reste inférieure aux standards réglementaires. D'après une évaluation sur le Grand Lomé et des localités qui représentent 40% de la population, le taux de succès d'appel des opérateurs n'atteint pas plus de 12% en dehors du Grand Lomé, malgré une amélioration depuis la dernière campagne. Au Cameroun, selon l'Institut national de la statistique, les prix à la consommation des ménages ont augmenté de 6,8% en juillet à Yaoundé, soit plus du double du seuil de tolérance de 3% d'inflation admis par la CEMAC. Cette évolution est liée à l'envolée de 13,7% des prix des produits alimentaires, souligne l'INS. L'inflation sur les produits alimentaires semble être davantage tirée par les importations. Les prix des produits alimentaires importés sont en hausse de 10,5%, tandis que ceux des produits alimentaires d'origine locale sont en hausse de 7,4%, indique le rapport. Invictus Energy affirme avoir levé 25 millions de dollars australiens pour le forage du projet gazier de Kabora Bassa au Zimbabwe. Les travaux des zones de Mukuyu et Baobab débutent dans quelques jours pour 2 mois environ. La firme australienne qui finance sur fonds propres cette étape du forage précise qu'elle fera éventuellement appel à des investisseurs et autres collaborateurs.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Eric Manirakiza.
Le football domine votre actualité sportive avec principalement la saga Ronaldo qui anime la fin du mercato. Lassé d'être remplaçant, Cristiano Ronaldo n'a pas caché ses envies d'ailleurs, faisant des gros titres tout l'été. Son éventuel départ de Manchester United où Anthony a débarqué contre une indemnité de transfert à 9 chiffres alimente les gazettes jusqu'en Italie malgré le pessimisme ambiant. Toujours en Angleterre, on parle de Haaland en hors d'œuvre, Ronaldo au dessert. Eh bien, c'est pour dire que la signature du prodige norvégien Erling Haaland à Manchester City a lancé sur les chapeaux de roue et mercato anglais de nouveaux records avec environ 2 milliards d'euros dépensés jusqu'à présent. Liverpool a sorti un chèque inédit pour les Reds, pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros pour arracher Darwin Nunes à Benfica, comme l'a fait Manchester United pour attirer Anthony, l'ailier brésilien de l'Ajax Amsterdam. Les Bleus ont copieusement dépensé en Roland Marc Cucurella et Kalidou Koulibaly. Là, je parle de Chelsea, mais surtout le français Wesley Fofana, devenu mercredi l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire. Et en Allemagne, on signale deux départs majeurs, une arrivée clinquante. La Bundesliga se retrouve orpheline de Haaland et de Robert Lewandowski qui, après 8 années au Bayern Munich, a filé au FC Barcelone contre 45 millions selon les estimations. Pour le remplacer, le club bavarois a réalisé un joli coup avec le Sénégalais Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool en 2019 et lauréat de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. En Espagne, Lewandowski, bien sûr, et Tchouaméni en attraction. Le mercato du Barça a été le feuilleton de l'été en Espagne, endetté d'environ 1,35 milliard d'euros. La saison dernière, le club catalan a activé plusieurs leviers économiques pour obtenir rapidement des liquidités. En France, Paris quasiment au complet. Le PSG a misé sur la jeunesse avec les Portugais Nuno Mendes et Vitinha, les Français Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, mais aussi sur des joueurs plus expérimentés comme Renato Sanchez et Fabián Ruiz, milieu venu de Lille et Naples. En attendant peut-être l'Espagnol Carlos Soler en provenance de Valence. En Italie, Paredes arrive, Navas espéré. La plupart des grands clubs italiens ont bouclé leur mercato. Aucun grand bouleversement de dernière minute n'était attendu d'ici la clôture jeudi à 20h.
Merci Eric. Ajoutons qu'en tennis, Serena Williams s'est qualifiée mercredi pour le troisième tour de l'US Open, qui pourrait être l'ultime tournoi de sa phénoménale carrière, en battant hier soir la numéro 2 mondiale, l'Estonienne Annette Contaveit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, hausse sauvage des prix de plusieurs denrées de première nécessité et produits. Un dérèglement que le service du commerce parvient difficilement à enrayer. Si des opérations de saisie contre des commerçants véreux se multiplient, la flambée incontrôlée des prix continue. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Quand une personne vient avec une somme conséquente, elle pourra faire ses achats. Sinon, c'est impossible, car ici, tout est cher. Personne ne sait la cause, car chacun cherche à se dédouaner.
Le dilemme de cette dame est aussi le cri de cœur de nombreux Sénégalais. La forte hausse du prix des denrées de première nécessité inquiète plus d'un. Selon les commerçants, les causes sont à chercher dans divers facteurs, comme nous l'explique Mam Tcherno Diop.
À une hausse du prix de l'import, ensuite à une hausse aussi au fret maritime, qui est très cher, qui est passé du simple au quadruple ou bien au triple. On note une rareté de certains produits. À cela s'ajoute le prix de l'or qui a augmenté. Donc du coup, si on achète à l'import, on achète plus cher.
Les tensions au niveau international avec la crise russo-ukrainienne et les impacts de la crise sanitaire passée poussent aussi les grandes puissances à sécuriser leurs acquis. Des actes qui influent fortement sur le coût de ces denrées, d'après l'économiste Magaï Gaï.
Une tendance des pays producteurs à vouloir renforcer leur stock interne pour des raisons de sécurité stratégique est également notée, notamment au plan alimentaire, ce qui crée ainsi des déséquilibres sur l'offre mondiale. Aujourd'hui, nous assistons à des tensions sur les chaînes de logistique internationale, puisque les prix du fret ont été multipliés des fois jusqu'à 5 fois, ce qui évidemment est répercuté sur le prix des denrées de première nécessité.
Pour beaucoup de Sénégalais, l'inflation notée ces derniers jours est de la responsabilité de l'État, une réflexion qui n'est pas partagée par l'économiste Magaï Gaï.
L'État a déjà fait énormément de choses en abandonnant un certain nombre de taxes douanières, la taxe conjoncturelle à l'importation. Aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens de subventionner, il faut le dire, parce que le budget de l'État devient beaucoup plus drastique. L'État n'a plus les moyens de tout contrôler, puisque c'est un problème international.
En l'espace de quelques mois, les prix des denrées de première nécessité sont passés du simple au double. Une situation qui appauvrit le panier de la ménagère et fait craindre le pire. Pour certains experts, si la situation n'est pas maîtrisée, cela pourrait entraîner des émeutes de la faim en Afrique. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Togo, les orphelins dont les parents ont été tués dans les violences politiques de 2005, suite au décès de l'ancien président Gnassingbé Eyadema, seront désormais pris en charge par le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale. Une bourse d'études mensuelle leur sera accordée sur une période de 5 ans. Et les premiers chèques viennent d'être remis aux premiers bénéficiaires. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
55 filles et 45 garçons constituent la première vague des enfants orphelins qui ont reçu l'aide de l'État. Parmi les bénéficiaires, la jeune Adjo Lucia, 18 ans. Elle a perdu son père qui a succombé lors des violences politiques de 2005 dans la ville d'Atakpamé. Faute de soutien, elle a dû abandonner l'école.
J'avais des maux de tête et d'yeux qui m'empêchaient d'apprendre mes cours. Nous sommes allés en consultation deux fois. La troisième fois, ma maman n'avait plus d'argent pour les analyses. C'est comme cela que j'ai abandonné l'école. Avec la bourse, je vais me soigner et apprendre un métier.
Depuis 2005, Bongo Kofi, habitant du village d'Akumapé, s'occupe des enfants de son frère tué lors des manifestations politiques d'alors. Il apprécie l'aide que l'État apporte aux orphelins.
La prise en charge de ces enfants n'était pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous y arrivions. Nous nous réjouissons de ce coup de main du gouvernement. Il va améliorer le vécu quotidien de ces enfants et le permettre de poursuivre aisément les études.
Sur une période de 5 ans, les bénéficiaires auront droit à une bourse mensuelle de 21 000 francs CFA. Awanana Daboya est la présidente du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale.
Faisons en sorte que pour les enfants, ça va être une activité qui s'inscrit toujours dans le cadre de rentrée scolaire. Voyez-vous, ça soulage beaucoup les parents. Mais je dois préciser que ça concerne les événements de 2005. Les événements de 2005, c'est ça qui a vraiment éprouvé beaucoup de parents et qui a causé des pertes énormes pour lesquelles le chef de l'État s'est écrié « plus jamais ça autour ».
L'ancien Premier ministre Joseph Kokou-Kofigo avait été à la tête d'une commission d'enquête sur les événements de 2005 dont les conclusions faisaient état de plus de 150 morts. Aujourd'hui, il donne quelques conseils aux bénéficiaires.
Il est vraiment heureux que la CVJR ait prévu une recommandation en disant qu'il faut prévoir quelque chose de spécial pour les enfants. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que les chèques qui ont commencé à vous être remis, c'est plus que de l'argent. C'est un outil formidable qui est mis à votre disposition puisque le programme va durer 5 ans.
Pour assurer la facilité de perception de ces bourses, la traçabilité et la transparence dans la gestion des fonds, un compte épargne a été créé pour tous les enfants bénéficiaires dans une banque de la place. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique.
Un nouveau rapport de Human Rights Watch indique que, dans près d'un tiers des pays africains, les adolescentes qui tombent enceintes sont confrontées à d'importants obstacles juridiques et politiques pour poursuivre leur éducation. Davantage avec Mohamed Youssouf de Africa News Center de la VOA à Nairobi. Le récit est de Ginny Niwa.
Human Rights Watch a déclaré mardi avoir examiné plus de 100 lois et politiques concernant l'éducation, l'équité entre les sexes et la santé reproductive qui sont préjudiciables à l'éducation des mères adolescentes. Adhirada Krishnan travaille avec la division des droits de l'enfant du groupe de défense des droits. Il dit que certaines lois africaines ont poussé les jeunes mères à quitter l'école.
It's shocking.
Il est choquant de comprendre comment le gouvernement sape l'éducation des filles et ferme effectivement la porte à l'avenir des filles. Ce sont des élèves qui se voient refuser leurs droits fondamentaux à l'éducation pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur désir ou leur capacité à apprendre et elles ne sont pas soutenues par leur gouvernement.
Les chercheurs ont constaté qu'au moins 10 pays africains n'ont aucun moyen ou mesure juridique pour protéger l'éducation des adolescentes lorsqu'elles sont enceintes et deviennent mères. Plusieurs pays, dont le Soudan, imposent des sanctions aux adolescentes qui ont des relations sexuelles hors mariage. Pour ces filles, aller à l'école pendant la grossesse éveille les soupçons et les expose à d'éventuelles poursuites pénales. Hannibal Waifo est le président de l'association du Barreau africain. Il dit que les normes culturelles sont principalement à blâmer pour les jeunes mères qui ne poursuivent pas leurs études.
Ces problèmes concernent les familles, la société et la communauté. Je ne pense pas qu'il y ait de loi spécifique interdisant aux gens de retourner à l'école. Je pense que nous devons délibérément encourager les filles africaines à retourner à l'école. Nous devons faire activement et délibérément campagne pour que cette grossesse chez les adolescentes ne signifie pas qu'elles doivent abandonner l'école ou abandonner l'éducation formelle. Sinon, s'il existe des lois en vigueur interdisant à une mère adolescente de retourner à l'école, nous aimerions les connaître et y travailler.
Du côté positif, selon Radhakrishnan, 38 pays d'Afrique ont des lois qui protègent l'éducation des femmes enceintes et des jeunes mères.
Beaucoup plus de pays ont des cadres positifs que de pays qui n'en ont pas ou qui ont des mesures discriminatoires. Nous avons vu des élèves exclus parce que les enseignants ne savent pas si la loi positive existe ou les parents ne savent pas qu'il y a de grandes leçons à apprendre. Des pays à travers l'Afrique tirent des pratiques positives de leurs voisins et élaborent des directives utiles qui garantissent que toutes les filles, quel que soit le statut de la grossesse ou de la maternité, toutes les filles peuvent accéder à l'éducation en Afrique.
Human Rights Watch exhorte les autorités des pays dépourvus de telles lois à créer des cadres juridiques qui affirment le droit des filles à l'éducation. Le groupe de défense encourage également les pays qui ont déjà des lois et des politiques à les mettre pleinement en œuvre afin que les jeunes mères et leurs enfants puissent en bénéficier.
Retour sur la mort de Mikhail Gorbatchev et les réactions à travers le monde. Le dernier dirigeant de l'ex-Union soviétique est décédé mardi soir à l'âge de 91 ans, des suites d'une longue maladie grave, a indiqué l'hôpital clinique central de Moscou où il était soigné. La vie et l'œuvre de cette grande figure politique du XXe siècle avec Mohamadou Humfa.
Né en 1931 d'une famille modeste de paysans de Stavropol dans le sud-ouest de la Russie, Mikhail Gorbatchev a été un pur produit du système communiste. À 19 ans, le jeune conducteur de moissonneuse-batteuse monte à Moscou pour effectuer des études de droit et s'engage dans le mouvement étudiant du Parti communiste. De retour à Stavropol, il travaille à plein temps pour le parti, s'occupant notamment des questions agricoles. Il est alors remarqué par le chef du KGB, Yuri Andropov, qui le fait monter à Moscou en 1978, où il intègre le comité central. Gorbatchev devient secrétaire général du parti à la mort du titulaire du poste, Konstantin Tchernenko, en 1985. Il lance alors une libéralisation baptisée la perestroïka, la restructuration et la glasnost, qui signifie la transparence, pour réformer le système soviétique et réduire l'influence des vieux caciques. Il obtient le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir mis fin pacifiquement à la guerre froide. Il a signé plusieurs accords avec ses anciens ennemis, les États-Unis, sur le contrôle des armes nucléaires et mis fin à l'occupation soviétique de l'Afghanistan. En décembre 1991, il démissionne après avoir échoué à moderniser le vieux système soviétique.
Réaction mesurée donc en Russie, hommage en Occident. Les réactions se poursuivent à travers le monde, Abdourahman Dia.
Dans un message de condoléances très mesuré, le président russe Vladimir Poutine a évoqué la mémoire d'un homme qui a eu, selon lui, une grande influence sur l'histoire du monde et a guidé notre pays à travers une période de changement complexe et dramatique et de grands défis. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé ce mercredi que Gorbatchev avait eu une vision romantique de la relation entre la Russie et l'Occident. Beaucoup en Russie lui reprochent toujours d'avoir causé l'effondrement de la puissance soviétique. L'une des rares personnalités russes a salué sa mémoire et l'opposant emprisonné Alexei Navalny. Il a souligné que Gorbatchev avait su quitter le pouvoir pacifiquement. C'est déjà un grand exploit selon les normes de l'ex-URSS, a-t-il déclaré dans un message publié par son équipe. Par contraste, les dirigeants occidentaux ont rendu des hommages appuyés à celui qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir fortement réduit la confrontation Est-Ouest. Le président américain Joe Biden a salué un leader rare qui a laissé un monde plus sûr. Gorbatchev, qui a permis la chute du mur de Berlin, puis la réunification allemande, a changé ma vie de manière fondamentale, a déclaré l'ex-chancelière Angela Merkel, qui a grandi en ex-Allemagne de l'Est. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a lui remercié l'ancien dirigeant soviétique pour sa contribution décisive à l'unité allemande. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, évoque un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire et fait plus que n'importe qui pour provoquer de façon pacifique la fin de la guerre froide. Quant à la Chine, elle a salué le rôle du dernier dirigeant soviétique au rapprochement entre Pékin et Moscou après 3 décennies de rupture.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro. Idrissa Seloudia à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot à la console, Kelvin Powell. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de